Bienvenue à toutes et à tous autour de la grande table d'été nimbée aujourd'hui de ténèbres méphitiques, puisqu'il sera question de théories du complot et des méchants en littérature, mais nul doute que nos invités sauront les dissiper, à moins que par l'étrange alchimie que l'on nomme gai savoir, ils les changent tout simplement en riante lumière. Et nous voilà, lancés à la vitesse folle et même presque instantanée des rumeurs qui circulent sur le net, dans la première partie de notre grande table d'été consacrée, je le disais, au conspirationnisme et à ses échos dans la fiction et la réalité, et ce, dans la compagnie de deux invités, le journaliste au magazine littéraire et romancier Alexis Broca, bonjour.
Bonjour.
Et face à vous, de l'autre côté de notre grande table, qui n'en déplaise aux illuminés, n'a rien de triangulaire, le fondateur du site Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également, Rudi Reichstadt, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès.
Monsieur le Président, l'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Ce n'est pas juste une organisation dissidente. Elle s'est déshonorée.
Dissoudre Mission Impossible est une erreur que vous pourriez regretter. Bond, j'écoute.
Sécurise l'appel.
Vas-y.
Le syndicat est bien réel, et ils savent qui nous sommes.
C'est une nation dissidente, entraînée à faire ce que nous faisons.
Une anti-mission impossible.
Ils feront tout pour nous avoir.
Oh la vache.
S'attaquer au conspirationnisme, est-il mission impossible? Nous l'allons donc voir maintenant. Les théories du complot, ou pour reprendre les catégories de Pierre-André Taguieff, les rumeurs, la peur, les hypothèses, l'imaginaire ou l'idéologie du complot n'ont jamais autant fait floresse dans la réalité. Des versions alternatives, des attentats du 11 septembre 2001 à celles des attentats de janvier, mais aussi dans les œuvres de fiction. En témoigne par exemple, comme vous l'entendez, la sortie au cinéma aujourd'hui du nouvel épisode de la franchise Mission Impossible, où l'organisation secrète de Tom Cruise lutte contre un non moins mystérieux syndicat, ou bien encore avec la renaissance annoncée de X-Files, la série télévisée au sous-titre évocateur « La vérité est ailleurs ». Mais avant de plonger plus avant dans ces arcanes obscures, peut-être pourriez-vous, Rudi Reichstadt, nous donner votre définition du conspirationnisme?
Le conspirationnisme, au fond, c'est une tendance à attribuer de manière abusive l'origine d'un événement choquant ou marquant, historique, et qui d'ailleurs peut être un événement, une catastrophe naturelle ou industrielle, un crash d'avion, etc. Eh bien, attribuer ça à un inavouable complot dont les auteurs, ou en tout cas ceux à qui il est censé profiter, eh bien, conspireraient dans leur intérêt à tenir la vérité cachée. Donc, un complot maléfique qui se double d'une conspiration du silence. C'est ça, une théorie du complot.
Et ces théories prolifèrent, je le disais, c'est même devenu un problème public, officiellement, depuis notamment des déclarations de François Hollande en janvier dernier. Rudi Reichstadt, le conspirationnisme demeure néanmoins pour de nombreux universitaires, pour des experts patentés, un concept frauduleux, voire un anathème commode, comme l'écrivait en juin dernier le Monde Diplomatique. Comment expliquez-vous ces réticences, voire cette résistance?
Eh bien, d'abord par une volonté, si vous voulez, pendant longtemps, on a voulu faire du conspirationnisme quelque chose, une sorte de pathologie clinique presque, qui confinait à la paranoïa, et se dire que finalement tout ça avait pas beaucoup d'effet, que ça avait toujours existé et que c'était pas un vrai sujet d'étude. Et puis, on voulait aussi éviter d'en faire la publicité, c'est-à-dire que parler et déconstruire ces thèses et ces discours-là, c'est aussi évidemment en faire la publicité et donc contribuer à les diffuser. Donc il y avait une réticence qui était là aussi bien compréhensible. Et puis je crois que pour une certaine sociologie critique, pour une critique de la domination, eh bien on est assez gêné aux entournures, si vous voulez, avec cette histoire de conspirationnisme, parce qu'on voit bien que il y a du bon et du mauvais, qu'il y aurait des théories du complot de gauche et des théories du complot de droite, donc des bonnes théories du complot et des mauvaises théories du complot. Malheureusement, c'est pas ce que nous dit l'observation. Ce qu'on observe, c'est que qu'on délire sur le Bilderberg ou la CIA ou le Mossad ou sur le complot juif, eh bien en réalité, tout cela participe d'une même mentalité du complot, qui a été mise d'ailleurs en évidence par la psychosociologie il y a de nombreuses années maintenant, et qu'on arrive de mieux en mieux à objectiver. Et cette mentalité du complot, on sait aussi qu'elle a partie liée avec l'extrémisme politique, la radicalité politique, d'extrême droite ou d'extrême gauche, et que les passerelles en réalité se font dans la vie réelle de manière assez naturelle. C'est-à-dire que si vous croyez que le Bilderberg dirige le monde, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de croire que les juifs complotent ou que les francs-maçons complotent, plutôt que le contraire. Voilà.
Il faut, là on est dans la réalité, tristement peut-être, tragiquement pour un certain nombre de cas dans la réalité avec vous Rudi Reichstadt, mais je me tourne vers vous Alexis Broca, journaliste, je le disais, au magazine littéraire, romancier. Si on délaisse un instant cette réalité, est-ce que vous pourriez nous dresser non pas votre carte du tendre, mais peut-être nous ouvrir votre bibliothèque du complot? Quand je dis complot, conspiration, conjuration, quelles œuvres ou quels auteurs vous viennent à l'esprit?
Ma petite bibliothèque paranoïaque est en effet bien fournie. Écoutez, il suffit de se tourner vers les grands écrivains paranoïaques. Je pense à un de mes chouchous qui s'appelle Howard Philip Lovecraft, qui est un écrivain qui a toute sa vie, en fait, développé une œuvre qui vous explique que le monde n'est pas ce que nous croyons, qu'il est beaucoup plus ancien que ce que nous croyons, que d'autres créatures l'ont dominé autrefois, que leurs souvenirs perdurent encore parmi les nôtres, qu'il existe des sectes mystérieuses d'êtres humains dégénérés qui les révèrent et qu'ils préparent ainsi ensemble la fin du monde. Bon, et il faut savoir que Lovecraft ne croyait absolument pas aux histoires qu'il inventait. Pour lui, c'était un pur motif esthétique. Mais lorsque vous lisez ça, comme je l'ai pu le lire à 12-13 ans, bah, c'est quelque chose qui vous secoue et qui vous... Effectivement, ce mystère, ce très beau mystère lovecraftien est très séduisant.
Vous y avez cru, donc, adolescent, vous avez cherché des runes
J'aurais aimé y croire, j'aurais voulu jeter des sorts, ce genre de choses, bien sûr. Mais il y a des principes de réalité qui vous font vite renoncer. Lorsque vous voyez la complexité des manœuvres à effectuer dans Lovecraft, forcément, c'est pas à la portée d'un petit pensionnaire de 13 ans. Sinon, on peut citer, par exemple, James Ellroy, qui est le grand auteur, un des grands auteurs qui ont travaillé sur l'affaire Kennedy, et qui a une thèse qu'il développe dans un quatuor, puisque les œuvres de James Ellroy s'organisent en quatuor. Il a une thèse qui est d'ailleurs une thèse assez classique, qui est que Kennedy a été assassiné par un groupe de Cubains formé par la CIA, au départ dans le but de déposer Fidel Castro en lien avec la baie des cochons. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on peut lire ce quatuor, être tout à fait convaincu que l'assassinat de Kennedy est donc l'œuvre d'une vaste conspiration, et en même temps on peut très bien lire le livre de Stephen King 22-11-63, qui vous explique très platement que par les faits et gestes d'Oswald, qu'il est aussi tout à fait possible et crédible, et c'est la thèse de Stephen King, qu'Oswald était absolument tout seul. Voilà.
Rudi Reichstadt, là Alexis Broca nous parle de littérature, mais il y a aussi le cinéma, la télévision qui se sont emparés et qui continuent de s'emparer de ces théories du complot. Est-ce que vous regardez des films, des séries au discours conspirationniste?
Oui, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et heureusement.
Un plaisir coupable?
Non, pas coupable. Si vous voulez, dans la mesure où tout ça reste dans la fiction et que ça se prend pas pour... Ça n'a pas de prétention de dire le réel. Comme a pu l'avoir, par exemple, Dan Brown avec le Da Vinci Code. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la préface de Da Vinci Code, Dan Brown explique que tout ce qu'il dit là est quand même est vrai, quoi, que c'est basé sur les documents réels, historiques, etc. Ce qui est faux, ça a été démontré par la suite, mais il joue un jeu qui est effectivement assez problématique et ambigu. Ouais, tout à fait. Maintenant, évidemment, c'est l'histoire de la littérature, c'est l'histoire du thriller, c'est l'histoire... Vous parliez des séries, vous parliez de X-Files, mais vous prenez House of Cards, ouais. D'abord, c'est très très noir.
Donc,
c'est
un caractère politique, rappelons-le, qui se passe dans les arcanes de la Maison Blanche.
Dans les arcanes de la Maison Blanche, alors qu'il y a un bon contrepoint en plus à une autre série qui était West Wing à la Maison Blanche, alors qui était un petit peu la version oui-oui hein, de ce qui pouvait se passer à la Maison Blanche. Là, on a une version au contraire très très noire et très cynique. Bon, ça participe aussi d'une tendance, d'un mood, si vous voulez, enfin d'un esprit du temps.
Un zeitgeist, dirait l'amateur de théorie du complot. Pour reprendre le titre d'un film qui circule sur Internet.
Et qui est complètement complotiste d'ailleurs. Mais ça participe d'un esprit du temps, effectivement, qui discrédite complètement nos responsables politiques, les médias qui sont de mèche, etc. Voilà. Maintenant, dans la mesure où ça reste dans la fiction et que c'est assumé comme tel, d'une certaine manière, il y a presque une mise à distance, si vous voulez, du thème du complot, qui permet quand même de faire la part des choses. Maintenant, pourquoi ça marche si bien le complot comme ressort littéraire ou fictionnel? Je crois que c'est parce que ça procure un plaisir intellectuel, un plaisir cognitif, qui est, on aura tous fait l'expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre la solution d'une énigme, on est quand même, il y a un vrai plaisir intellectuel derrière ça.
Oui, Alexis Broca?
Non, je pense qu'en effet, vous parlez de la fiction, de la réalité du complot. Je pense qu'il y a un lien, c'est-à-dire que l'intelligence humaine, intelligere, c'est créer des liens. Et lorsque nous lisons des fictions, souvent des fictions qui portent des mystères ou des complots, nous assemblons comme ça les indices en notre esprit, de manière à créer une espèce de théorie. Finalement, les complotistes font ça dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils regardent la réalité en cherchant des indices et en les rassemblant. Et ça, je pense que c'est une tendance naturelle de l'esprit humain. Maintenant, je pense que les bons auteurs complotistes sont pas ceux justement dont les intrigues sont très millimétrées et où tout arrive selon la façon dont le méchant l'a prévu. Lorsque vous lisez les œuvres de James Ellroy, qui est un excellent complotiste, si j'ose dire, vous voyez bien qu'il y a toute une part de chaos qui s'invite dans ces machines. Et qu'elle ne marche jamais comme prévu. Et le meurtre de Kennedy pour James Ellroy est le résultat d'un tel chaos. Je pense que les bons romanciers croient davantage au chaos qu'au complot et davantage souvent aux pulsions de mort qu'au mal.
C'est du complotisme intelligent, quoi.
Voilà.
Mais précisément, dans la réalité, on n'a pas affaire à des romanciers, voire à des maîtres de la littérature comme James Ellroy, dont les livres ont la faveur d'Alexis Broca. Revenons à cette réalité, aussi tordue soit-elle. Il y a des discours complotistes nombreux, on le disait, qui sont élaborés aujourd'hui un peu à tout bout de champ. Est-ce qu'on pourrait embrasser avec vous qui les observez via le site Conspiracy Watch? En tout cas, vous témoignez de cette observation. Est-ce que vous pouvez nous dresser une sorte de panorama des théories du complot en vogue actuellement dans ce qu'on appelle la complosphère?
Oui, alors un panorama, c'est assez compliqué, puisque tout événement marquant, un peu comme je disais en introduction, est sujet à une réécriture complotiste, et au-delà de ça, tout événement historique qui peut être mis en lien avec l'actualité. C'est pour ça qu'on n'a pas cité Umberto Eco, mais qui est un excellent auteur également,
Prague,
mais dans le cimetière de Prague, dans le pendule de Foucault, dans son dernier livre qui s'appelle Numéro Zéro, il parle de rétrologie complotiste, c'est-à-dire cette manière de réécrire l'histoire à l'aune d'un complot qui continue encore aujourd'hui. En l'occurrence, il nous dit que Mussolini ne serait pas mort comme on le pense, qu'il aurait continué à vivre en Argentine, etc.
Avec Hendrix
et que la loge P2 qui a existé, pour le coup, a essayé de réorganiser son retour dans les années de plomb, notamment. Enfin, voilà. Et ça se lit avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs.
Alors, s'il y a toujours des amateurs pour la moindre théorie complotiste, il y a quand même certaines de ces théories qui recrutent énormément d'aficionados.
Oui, alors c'est un levier de recrutement.
Alors quelles sont-elles, si on peut simplement les présenter pour l'heure, ces grandes théories qui aujourd'hui rassemblent les foules?
Ces grandes théories, c'est ou bien sur des... Elles sont de nature événementielle. Elles vont dire que les attentats de janvier 2015 sont le fruit d'un complot des services secrets français de mèche avec le Mossad et la CIA, pourquoi pas. Ou le 11 septembre, c'est celui qu'on cite le plus souvent parce qu'il a donné lieu à un nombre très important de théories. Et puis, alors, pour le coup, il a une résonance universelle comme événement. Mais il y a aussi les théories du complot qui ne se fixent pas sur un événement, mais vous savez, l'histoire des... ce qu'ils appellent les chemtrails, c'est-à-dire les traces laissées par les
avions
dans le ciel, seraient en réalité des épandages de produits chimiques qui serviraient à anesthésier comme ça notre volonté et qui expliqueraient notre la facilité avec laquelle on avale les mensonges de la presse.
Et si on devait remonter Rudi Reichstadt, faire une sorte d'archéologie ces théories du complot, on cite souvent le protocole des sages de Sion, ce faux fabriqué à Paris par un Russe. Est-ce qu'il faut remonter à ce texte-là en particulier?
Non, on peut remonter plus loin, on peut remonter à la Révolution française. Parce que les protocoles des sages de Sion, ça commence en 1903 en Russie, c'est effectivement fabriqué à Paris, sur la base d'un matériel qui préexistait d'ailleurs, qui a été... Umberto Eco explique ça très bien, et Pierre Rendez-Aguef aussi.
Les jésuites à l'origine.
Oui, tout à fait. Alors il y a aussi
le
complot jésuite.
Avant, bien sûr.
Et puis il y a les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, 1797, si mes souvenirs sont bons. C'est un contre-révolutionnaire qui explique, enfin qui veut expliquer la Révolution française, qui est quand même un événement absolument incroyable, qui est fondateur d'ailleurs de notre histoire contemporaine, et qui l'explique par les manigances d'une société secrète, les Illuminés de Bavière, qui a réellement existé d'ailleurs pendant un peu moins de 10 ans, ils ont été dissous en 1785, et qui avait un véritable projet subversif, hein, de mettre à bas le trône et l'autel, enfin, et Baruel explique que la Révolution française a été planifiée, organisée par ces gens-là, et par leurs agents. Mais on peut remonter même encore plus loin, si vous voulez. Au Moyen-Âge, on a le thème du complot des lépreux et déjà des histoires d'empoisonnement des puits par les juifs, etc. Mais si vous voulez, on est davantage dans la recherche de la main satanique ou diabolique. Il y a un des maîtres ouvrages de Léon Poliakov, l'historien, grand historien de l'antisémitisme, qui s'appelle la causalité diabolique. Et il écrit quelque part que notre principe de causalité, l'origine de notre principe de causalité doit sans doute être recherchée dans la croyance dans les démons, parce qu'ils nous permettent d'expliquer ce qui va mal et ce qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et le complotisme, est-ce que finalement ça n'est pas autre chose qu'une forme de comment dire, la laïcisation des démons, quoi? Est-ce que c'est pas une forme de providentialisme sécularisé? C'est plus la main de Dieu ou de Satan, le mal, qui explique l'histoire, mais les agissements maléfiques d'un petit groupe d'individus.
Donc il y a ce retour de la pensée magique, et il y a aussi quelque chose de magique dans l'histoire de JFK, de Kennedy, dont on parlait il y a un instant avec vous, Alexis Broca, et qui, je crois, il y a cette balle magique, hein, oui, qui est évoquée. Cet assassinat de John Fitzgerald Kennedy a quelque chose de fondateur, en tout cas de traumatisant et d'essentiel pour les lettres américaines, au-delà du cas Elroy?
Alors oui, bien sûr, beaucoup d'auteurs se sont intéressés à Kennedy. Bon, les plus célèbres, c'est Elroy et Don DeLillo. En fait, le truc, c'est que l'affaire Kennedy est devenue livresque. C'est-à-dire que vous avez deux commissions successives qui ont travaillé dessus. La commission Warren, si je me souviens bien, la commission HSBC, qui ont produit des tomes et des tomes et des tomes d'ouvrages. Parallèlement à ça, beaucoup d'auteurs, d'enquêteurs indépendants ont travaillé sur l'affaire Kennedy. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne peut prendre en compte toutes les théories qui ont été pondues sur cette histoire. Ce qui fait qu'en fait, c'est ce que raconte Don DeLillo dans Libra d'ailleurs, les gens qui recherchent, qui travaillent sur l'affaire Kennedy aujourd'hui, sont plus des petits enquêteurs à chapeau mou avec des loupes, et ce ne sont pas des hommes de terrain, ce sont des hommes du livre. Ce sont des hommes qui vont examiner comme ça différents reflets de preuves, différents témoignages, souvent de seconde main. Ce qui fait qu'en fait, la vérité est devenue proprement inconnaissable, noyée sous des couches et des couches et des couches de fiction.
Voilà. Connelly se tourne maintenant. Image 238. Le quatrième coup de feu manque Kennedy et atteint Connelly dans le dos. C'est le coup de feu qui prouve qu'il y avait deux fusils. Connelly hurle. Mon Dieu, ils vont nous tuer tous. À peu près au même moment, un autre coup de feu qui manque complètement la voiture touche James Cave en bas près du tunnel. La voiture freine. Le sixième coup de feu qui sera mortel, image 313, atteint Kennedy à la tête de face. C'est le tir décisif. Le président est projeté en arrière et sur sa gauche. Touché de face par la droite. Ce qui ne correspond en rien à un coup de feu tiré depuis le dépôt de bille. Regardez encore. En arrière et sur la gauche. En arrière et sur la gauche. En arrière et sur la gauche. En arrière et sur la gauche.
En arrière et sur la gauche, vous êtes autour de la grande table d'été sur France Culture, où l'on parle de théorie du complot, ici avec un extrait du film JFK d'Oliver Stone. Rudi Reichstadt, je souhaiterais que nous étalions à présent sur la table, à la manière d'un bricoleur ou d'un simple quidam face à une armoire Ikea en pièces détachées, les outils du conspirationniste. De quoi se sert-il volontiers?
Alors les images, hein, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est évidemment déterminant, mais avec un rapport très ambivalent à l'image. C'est-à-dire que l'image peut à la fois prouver, en tout cas on s'en sert comme une preuve du complot et de la manipulation, et en même temps l'absence d'image peut aussi être considéré comme la preuve d'une manipulation. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que, prenez la théorie du complot sur le 11 septembre, on vous explique que lorsqu'on regarde les images des tours, il y a des choses anormales qui se passent, qu'on peut par ailleurs tout à fait expliquer rationnellement. Mais on vous explique qu'en gros, il y a des choses, des anomalies qui montreraient la démolition contrôlée des tours. Et parallèlement à ça, on vous dit, mais finalement, il n'y a pas d'image de l'avion qui s'est crashé dans le Pentagone. Et si on n'a pas d'image, c'est qu'il n'y a pas eu d'avion. Et alors là, on est, vous voyez, dans une sorte d'asymétrie cognitive. C'est comme ça que Pierre-André Taguieff propose de l'appeler. C'est-à-dire que tout ce qui va dans le sens du complot est retenu à charge. Tout ce qui ne rentre pas dans la théorie du complot, eh bien, est juste écarté et considéré comme nul et non avenu.
Il faut dire que, là on parle des images du 11 septembre 2001 à New York, toutes les images aujourd'hui, et notamment, vous y insistez, Rudi Reichstadt, les plus choquantes, ont droit à ce traitement, qu'on pense aux vidéos des djihadistes de l'État islamique, de Daesh, ou encore les images qu'on a pu récupérer concernant les frères Kouachi, hein, Kamel Daoud, qui est pris Goncourt du premier roman cette année, le roman algérien a pu écrire sur le sujet des tribunes assez mordantes où il dit qu'à propos des frères Kouachi, quand ils tirent dans le tas, on s'attarde sur les rétroviseurs.
Ouais, c'est vraiment ça. Mais tout est bon pour nourrir le complot, si vous voulez. Les complotistes sont vraiment dirigés par leur postulat de départ qui est le complot. Et vous parliez des techniques, des outils, la boîte à outils du complotisme, c'est évidemment l'inversion de la charge de la preuve. Prouvez-moi qu'il n'y a pas de complot. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de complot. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas, pour reprendre l'exemple de la théière de Russell, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, mais en gros, c'est de dire, bah, finalement, on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas une théière en porcelaine de Limoges en orbite autour de Pluton. Parce qu'on n'a pas les télescopes pour l'observer. Et finalement, entre la proposition qui consiste à dire il y a une théière autour de Pluton et celle qu'on sait dire il n'y en a pas, on ne peut pas trancher. Or, en réalité, il y a une théorie qui est plus probable que l'autre. Et bien, c'est pareil pour le complotisme. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, pour démonter les théories du complot, parce que les débunkers, ceux qui résistent aux complotistes, ont aussi une boîte à outils. C'est le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est le principe d'économie. De parcimonie, si vous voulez, dans le raisonnement. Entre une explication extrêmement alambiquée, complexe, qui fait appel à des centaines de personnes impliquées, etc., enfin un complot gigantesque, et puis quelque chose qui se tient, qui est sans doute moins grandiloquent, mais avec un peu de hasard, un peu de coïncidence, finalement, c'est la deuxième hypothèse qu'il faut privilégier, ce que nous dit le rasoir d'Occam.
Alexis Broca.
Alors, je pense que la littérature est un bel outil pour lutter contre notre tendance à justement voir des conspirations. La bonne littérature, je vais vous dire très vite une histoire d'Alice Munro, grand écrivain, prix Nobel. Alice Munro raconte l'histoire d'un bûcheron qui va dans un bois pour couper des arbres. Et là, il croise quelqu'un qui lui dit « Écoute, il paraît que le gouvernement canadien va araser cette forêt ». Donc, dépêche-toi. Alors, il commence à couper du bois, il revient dans la ville, et la rumeur que le gouvernement canadien va raser cette forêt est devenue de plus en plus forte. Et elle est devenue de plus en plus forte, elle y va dans un bar, il en entend parler, et là, on lui dit, oui, il y avait un bûcheron ce matin qui était dans ces bois pour couper les arbres pour le gouvernement canadien. Et le bûcheron, c'est lui. Et il se rend compte, en fait, que c'est un bûcheron, donc il fait une réflexion avec les éléments à sa hauteur. Il se rend compte qu'en fait, les êtres humains sont comme des arbres dans une forêt, que le moindre mouvement d'une branche à une extrémité de la forêt peut agiter toute la forêt, il peut même revenir au premier arbre. Et ainsi, c'est ce type, en allant couper du bois, a lancé une rumeur effroyable, sans même s'en rendre compte, sans même avoir d'idée complotiste. Donc cette histoire montre bien notre tendance à tout transformer comme ça en petite dramaturgie complotiste.
On parlait à l'instant avec Rudi Reichstadt des outils du complotiste. Les outils sur la toile, c'est notamment un rapport très aigu à l'image. Alors, pour l'écrivain. Il y a certes la hache au départ pour couper les arbres et obtenir du bois, oui. Mais chez les auteurs de littérature, de fiction sur le papier, Alexis Broca, est-ce qu'il y a des figures de style, un vocabulaire qui servent aux modestes artisans et aux maîtres littéraires du complot ?
Oh, je pense qu'il y a plutôt des genres dans lesquels donnent les maîtres du complot. Et il est évident que des gens comme John le Carré, par exemple, qui sont John le Carré, maître du roman d'espionnage, bah, donnent évidemment dans un tas de, inventent comme ça un tas d'intrigues qui sont liées à des complots. Maintenant, c'est peut-être des complots vertueux. Par exemple, je pense dans un pur espion, il y a l'histoire d'un espion anglais et d'un espion du bloc de l'Est qui apprennent à se connaître dans leur jeunesse quand ils sont tous les deux attachés à l'ambassade à Vienne, qui restent copains et qui finissent par échanger des secrets au nez et à la barbe de leurs chefs respectifs pour influencer l'état du monde de façon vertueuse. Donc là, je ne sais pas si cette idée de Le Carré est basée sur des... Le Carré base souvent ses histoires sur son propre travail d'espion. Mais en tout cas, c'est possible une histoire comme ça. Voilà.
Vous dire Reichstadt, il vous arrive de démonter des complots vertueux, de débunker, comme vous dites. C'est malheureusement trop rare.
Il y a rarement de complots vertueux, à part oui. dans la littérature. Je pense aux ouvrages d'Antoine Bello,
oui, tout à fait.
Les falsificateurs, hein. les éclaireurs, où on est vraiment dans une conspiration du bien, quoi. Oui. Non, moi, vous savez, je débunk pas les vrais complots. D'ailleurs, c'est assez secondaire pour moi. Moi, ce qui m'intéresse,
puisque vous êtes au service des vrais complots.
Exactement. Non, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les mythes, ce sont les croyances, ce sont les affabulations conspirationnistes, et parce qu'elles ne font pas moins l'histoire, si vous voulez, que ne la font les complots, et sans doute même plus. Elles agissent les hommes, si vous voulez.
Quelles sont les cibles de ces discours complotistes, conspirationnistes dominants aujourd'hui?
Dominant, si vous prenez le cœur du cœur de ce qu'on appelle la complosphère, c'est-à-dire les sites et blogs complotistes, c'est-à-dire dans la mesure où c'est la principale de leurs activités, hein, réinterpréter le monde, l'histoire, l'actualité à l'aune de la théorie du complot, c'est évidemment les cibles traditionnelles, c'est-à-dire complotionnistes, complot américano-sionistes, etc., qui sont des avatars contemporains du complot juif, quoi. Je veux dire, on retrouve vraiment le même imaginaire, quoi, derrière.
Et Alexis Broca, dans la littérature, on a affaire à des cibles plus imaginatives de la part des auteurs, des bons auteurs.
Je pense que je crois pas que les auteurs, ceux que je lis en tout cas, je crois pas qu'ils cherchent à gagner, à part James Ellroy peut-être, mais je crois pas qu'ils cherchent à gagner les lecteurs à leur version des faits. Je pense qu'au contraire, ils essayent d'établir des choses qui n'insultent pas notre intelligence et qui n'y font pas trop confiance non plus. C'est-à-dire que des choses, des intrigues où tout n'est pas absolument logique, où tout ne se règle pas selon une pure mécanique de causalité. Donc je pense que les gens comme John le Carré s'intéressent à des lecteurs souvent qui lisent des lecteurs qui lisent les pages internationales du Monde et qui sont au courant des divers enjeux géopolitiques et qui sont donc capables de comprendre l'intrigue complexe qui est greffée sur ces enjeux. Je sais pas, quand le Carré parle par exemple de l'interpénétration des services secrets avec les officines privées, des officines privées, c'est quelque chose qui existe, si vous voulez, et il faut être un petit peu au courant de ça pour pouvoir goûter tout le sel de son roman. Voilà.
Sans condescendance, Rudi Reichstadt, quand on parle de la cible de ces théories du complot, de ces discours, on pense aussi à l'audience, au public qui y prête attention, qui y accorde du crédit. Sans condescendance, je disais, il semble malheureusement que les cibles privilégiées, les amateurs se recrutent parmi, non pas les lecteurs des pages internationales du Monde, mais plutôt parmi des personnes qui ont peu d'éducation, qui sont aussi plutôt sur les franges extrêmes de l'échiquier politique.
C'est ce que met en évidence un certain nombre d'enquêtes d'opinion, c'est-à-dire qu'effectivement, les plus jeunes, les 15-24 ans, seraient plus touchés que les autres catégories de la population, et les plus diplômés seraient moins perméables à ces discours-là que les autres. Maintenant, c'est un constat qu'il faut nuancer immédiatement.
Il s'agit de statistiques.
Voilà,
et donc pas du un par un.
Parce que en réalité, selon les théories du complot, considérer, vous allez avoir des catégories sociales qui seront plus perméables. Vous avez des théories du complot populaires chez les CSP+, et pas du tout chez les bacheliers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut pas croire que l'âge est aussi handicapant, c'est-à-dire que vous avez des retraités qui sont très actifs sur le net, qui ont des blogs complotistes et qui sont d'ailleurs très intelligents et très diplômés, et c'est pas le problème. Si vous voulez, ça n'immunise pas le diplôme, hein, très clairement.
Alexis Broca, on le sait, dans l'actualité, on parle des départs pour le djihad d'un certain nombre de jeunes Français. On a souvent affaire à des jeunes gens, des adolescents, qui sont donc un public de choix pour ces théories du complot, parce que ceux qui partent pour le djihad sont parfois motivés par ce type de discours et ce type de représentation. Vous-même, vous connaissez quelque chose des adolescents, non seulement pour l'avoir été, comme bon nombre d'entre nous, mais pour avoir signé des romans qui leur étaient destinés. Je pense à la série La Mort, j'adore.
C'est vrai.
Alors quoi, est-ce qu'on est sérieusement accro au complot quand on a 17 ans ?
Disons que je pense qu'on a une appétence pour le mystère, en fait. On a un goût pour ce qui est caché. Forcément, lorsqu'on est adolescent, on vient de dévoiler ce qui nous était caché enfant, et on a l'impression qu'on nous en cache encore davantage le vrai fonctionnement du monde. Donc, bien sûr, on a une petite appétence pour cela. Ça ne veut pas dire que tous les ados versent naturellement dans les théories du complot, mais je remarque quand même que... Moi, je donne des cours à la Sorbonne, en fait, de journalisme. Ce sont des grands adolescents, ils ont 21, 22, mais je remarque quand même qu'il y a une espèce de résistance comme ça à l'histoire, une espèce de résistance aux faits d'actualité, une petite volonté de cligner de l'œil en se disant « ouais, mais on sait bien qu'on ne saura jamais ». Et on ne saura jamais, parce que forcément, derrière, il y a une grande dramaturgie qui nous est dissimulée. Ces idées ressortent de façon très étonnante récemment avec un auteur sud-américain dont je ne citerai pas le nom, pour lui, le 11 septembre, c'était très louche. Et c'est un bon auteur, quelqu'un de diplômé, d'intelligent, mais je pense qu'aussi le fait de venir d'Amérique du Sud, où on a
une histoire compliquée dans le backyard
avec les États-Unis, ouais. Voilà, exactement, on a tendance plus facilement à croire à ce genre de choses.
Et puis je crois qu'il y a une hypothèse qu'on ne peut pas écarter, qui est celle de la vulnérabilité intellectuelle. On n'a pas à 16 ans le bagage intellectuel qui nous permet de résister à ça. Et puis je crois que c'est peut-être aussi le signe d'un esprit critique sans méthode, quoi, qui se déploie comme ça, sans frein, sans méthode, et qui sombre finalement dans la suspicionnite, quoi. It's never too late to change your luck. So don't let them steal your life.
Sur les ondes de France Culture dans la grande table d'été, non pas parce que toute la diplomatie mondiale est tenue par des conjurateurs, mais parce que le titre s'intitule Révolution. Vous, quand on vous fait écouter Révolution de Diplo, Alexis Broca, vous pensez à Megadeth ?
Non, en fait, c'était cette discussion sur le complotisme qui me fait penser à Megadeth. En effet, Megadeth, c'est un vieux groupe de hard rock qui représente bien une certaine de la catégorie white trash aux États-Unis, et il y avait cette chanson qui s'appelait
Les pauvres petits blancs. Hein.
Les pauvres petits blancs, trash, voilà.
Les Américains oubliés.
Exactement, oubliés par la prospérité et le rêve américain. Et il y avait cette chanson qui s'appelait Hangar 18, qui racontait donc comment est-ce que les États-Unis gardaient dans le fameux Hangar 18, qui est sur la zone Roswell d'ailleurs, des corps d'extraterrestres en état de cryogéniser, extraterrestres bien sûr dont nous dépouillons la science à des fins absolument maléfiques, forcément. Voilà.
J'ai choisi Rudi Reichstadt à dessein, ce titre Revolution de Diplo, parce que pour vous interroger sur l'objectif in fine de ces complotistes, certains, non des moindres, agitent volontiers le spectre de la guerre urbaine. Est-ce qu'ils la veulent ou bien sont-ils plus ambitieux? Espèrent-ils donc la révolution?
En tout cas, il y a un projet politique. Je ne sais pas s'ils espèrent très réellement et très sérieusement une révolution. Il y a eu un mouvement, il y a le mois dernier, le mouvement du 14 juillet, qui a été lancé en mars dernier et qui proposait de faire un putsch. Les participants
du mouvement... Avec des petits airs de 6 février 1934, de grands rassemblements populaires.
Plus que des petits airs, voilà, en essayant de rassembler sur Internet des volontaires pour venir devant l'Assemblée nationale le 14 juillet, et pour essayer de rallier les forces de police et l'armée. Ils étaient persuadés
que les légionnaires, avec leurs tabliers, allaient bifurquer depuis les Champs-Élysées.
C'est ça. Alors, heureusement pour nous, il y a une forme de loyalisme... Et de loyauté à l'égard de la République, de nos forces armées, mais voilà, ça a réuni 200 personnes, ça a fait pchit. Et en revanche, il y a des appels depuis, et ça peut être, on peut considérer ça comme étant inquiétant, au putsch militaire en France, de la part de ces gens-là. Il y a un petit groupe qui s'appelle la dissidence française et qui appelle clairement, qui est un groupe antisémite et d'extrême droite, et qui appelle clairement un putsch militaire en France. Un autre site aux antipodes de celui-là, mais qui pas moins complotiste, qui délire sur le complot musulman et l'immigration, etc., qui s'appelle Riposte Laïque, a appelé récemment également les militaires au secours, parce que sinon, c'est bientôt la charia en France, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on peut y lire. Dieudonné aussi a expliqué que finalement, il y avait eu un coup d'État en Égypte et qu'en France, il pouvait y avoir aussi l'armée, comme ça, qui pourrait venir au secours.
Donc voilà. Dans la littérature, Alexis Broca, l'objectif des auteurs, c'est sinon de faire un coup d'État chez leur éditeur, c'est de peut-être davantage de donner un visage au mal.
Oui, c'est souvent de donner un visage au mal, et en effet, on voit très souvent, on voit assez peu ce qui va se passer après la réalisation du complot, parce que le complot est un but en soi.
Malheureusement ou heureusement pour la réalité, mais malheureusement pour l'imagination fertile du lecteur, fait souvent pchit et on parvient à éteindre la.
Oui, en général, on parvient.
La mèche allumée comme dans Mission Impossible avant qu'elle atteigne le baril.
Ou parfois, il devient le complot s'échappe, devient un monstre. Vous avez notamment un livre de Hergé et Laurie, où ça raconte, Hergé Lloris, c'est un auteur de Polar, il raconte comment est-ce que la CIA aurait financé des opérations au Vietnam par la drogue, et puis finalement ce système de drogue est devenu très pratique pour créer des financements, et du coup c'est devenu un complot qui marche à vide tout seul et qui tient tout seul.
Rudi Reichstadt, disons encore peut-être un mot des effets du discours complotiste, conspirationniste sur nos concitoyennes, nos concitoyens, quels qu'ils soient, et notamment peut-être des effets sur les représentations politiques.
Oui, ils sont très réels. Moi, je crois qu'il y a... C'est Richard Hofstetter qui disait ça. Il disait, mais finalement, lorsque vous êtes persuadé que nos représentants élus démocratiquement sont en réalité des marionnettes à la solde de puissances obscures, qui sont donc corrompues, cette croyance-là, dans un complot, et dans l'idée que la démocratie n'est au final qu'un théâtre d'ombre, ça conduit nécessairement, fatalement, à interroger la validité même de ce modèle démocratique. Et je crois que c'est aussi là qu'on doit rechercher le fait que ces théories-là sont liées en général à la radicalité politique. Il y a un autre effet qui est que lorsque vous avez une partie de la population qui verse là-dedans, pour qui la commune réalité n'est plus celle que nous partageons vous et moi, pour qui les attentats de janvier, par exemple, sont un complot contre les musulmans et l'islam. C'est ce qu'on peut lire, entendre, voir. Ça veut dire que vous avez une partie de la société française qui est en sécession par rapport à l'autre, pour qui il y a plus de monde commun possible. Et si la démocratie, c'est l'organisation du débat, l'échange, la confrontation des libres opinions sur le bien commun, comment il peut y avoir un débat démocratique si on n'est même pas d'accord sur les faits? Parce que là, c'est plus des opinions qui s'affrontent, ce sont vraiment une représentation du réel.
Alexis Broca.
Ce qui est intéressant, c'est que cette représentation du réel un peu dévoyée est utilisée aujourd'hui, enfin, a été utilisée dans les relations internationales. Je pense à la Russie demandant aux États-Unis de montrer les preuves de leur voyage sur la Lune. La Russie n'accuse pas les États-Unis.
Et on n'est pas dans la littérature.
On est dans la réalité. Les États-Unis n'accusent, enfin, les Russes n'accusent pas les Américains de ne pas être allés sur la Lune, mais ils font implicitement allusion, lorsqu'ils demandent aux Américains leurs preuves, ils font implicitement allusion à une théorie du complot qui veut que, qu'il n'y ait jamais eu de voyage dans l'espace, que les Américains n'aient jamais marché sur la Lune, que ce soit un travail de propagande pour pousser l'URSS à la banqueroute.
Et d'ailleurs, ils disent qu'ils veulent monter une enquête. Mais si vous voulez, c'est très intéressant parce que finalement, ça conduit à déchoir les faits pour en faire des opinions, au rang d'opinions. Et c'est central dans la rhétorique complotiste.
C'est-à-dire qu'on vous dit... conclure, Rudi Reichstadt, parce que le temps nous presse, le temps est contre nous, joue contre nous, aujourd'hui autour de la grande table. Quel remède? Il faudrait qu'on finisse peut-être sur un peu de lumière dans toutes ces ténèbres. Quel remède est-ce qu'on peut proposer? Je citais tout à l'heure le romancier algérien Kamel Daoud, qui plaide, lui, non sans un peu de mordant, pour l'éducation. Il écrit « Si on est manipulé, c'est qu'on est faible et manipulable, et malade, et tordu, et génial. » Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, je crois que l'histoire, l'apprentissage de la méthode, parce que l'esprit critique, encore une fois, en roue libre, n'est pas une solution. Et puis prendre conscience du problème et essayer de le reconnaître. C'est-à-dire que maintenant, on sait à peu près comment ça fonctionne, la théorie du complot. On sait à quoi ça répond, comme besoin cognitif, et de quelle manière ça joue, sur quel biais cognitif aussi ça peut jouer. Donc déjà, apprendre à identifier, à reconnaître ces contenus-là.
Alexis Broca, s'il fallait finir sur peut-être un ouvrage pour se mitridatiser contre les théories du complot.
Un ouvrage pour se mitridatiser contre les théories du complot. Oh, écoutez, moi je vous conseillerais de lire un grand auteur paranoïaque qui est Lovecraft, et ensuite de lire la correspondance de Lovecraft, et vous verrez très vite que les idées paranoïaques qui valent en littérature ont des pendants de la réalité qui sont absolument risibles.
Merci beaucoup à tous deux. Alexis Broca, je rappelle donc que vous êtes journaliste au magazine littéraire. Vous avez signé cette année La vie de jardin, qui n'a rien d'un roman conspirationniste, quoique, chez Gallimard. Et puis, vous participez à Remake, une sorte donc de retour, de reboot de renaissance des contes de Perrault. Voilà, chez Bellefond, qui paraîtra le 1er octobre. Merci, Rudi Reichstadt.
Merci.
Votre site internet, c'est Conspiracy Watch. Quant à Kamel Daoud, on peut trouver ses textes mordants, je le disais, sur la théorie du complot sur internet. Il y a notamment se laver les mains en utilisant ses pieds. Et comme chaque jour, à pareille heure, la grande table d'été vous propose une carte postale écrite par un membre de son équipage. Aujourd'hui, c'est Hélène Davoine qui signe cette carte en compagnie, qui nous raconte son voyage en compagnie d'un homme au sourire lumineux, mais qui lui aussi a eu affaire à un méchant personnage.
Chers convives, c'est sous un soleil ardent que je vous écris cette semaine. Le même soleil qui brûle les rivages de Méditerranée, des îles grecques aux côtes turques, des côtes turques aux plateaux syriens. Les terres souriantes et les terres meurtries par la guerre. Celles que l'on quitte et celles vers lesquelles on fait voile, portées par l'espoir et hantées par la nostalgie. D'une terre à une autre, les chemins de l'exil ont conduit au début de la guerre civile le chanteur syrien Omar Suleyman jusqu'à Istanbul, laissant derrière lui sa région natale d'Asaké, au nord-ouest du pays, dévastée par le conflit qui oppose désormais l'armée de libération syrienne, les forces kurdes, les combattants de Daesh et les troupes gouvernementales de Bachar al-Assad. Arrivé en Turquie à 45 ans en 2011, Omar Suleyman a troqué ses aviateurs pour des baloramas, mais gardé son éternel kéfier et sa moustache. Dans la fièvre des rues d'Istanbul, il a déguisé sa nostalgie sous les rythmes endiablés de sa musique, reprenant pour lui insuffler une énergie pop et électro, la dabka, cette danse traditionnelle et frénétique des mariages syriens où les hommes font tourner leurs mouchoirs au-dessus de leur tête. Cette nostalgie est comme la part d'ombre du désert. On ne la devine pas chez ce chanteur souriant à la renommée désormais internationale. Nous voici à présent dans le désert. Celui que le chanteur sillonne obstinément dans le clip Bar Neninami, la chanson phare qui donne son nom au nouvel album sorti en juillet 2015. Face à l'ardeur du ciel et à l'aridité des montagnes, sa musique tourne en s'élevant dans l'air chaud de l'après-midi. Sensuelle, stridulante, envoûtante, au son de l'oud et du saz, se lutte à longs manches. Omar Suleyman est un charmeur de serpents, à la gestuelle imperturbable. Veux-tu dormir dans mes bras, que tes lèvres se mélangent aux miennes ? Chante le lover du désert, insouciant et insoumis, qui refuse que la musique n'ait d'autre mot qu'amoureux. Pour ce nouvel album, alliage hybride de folklore et de pulsations digitales, le chanteur a collaboré avec quelques émirs de l'électro, Forte, Jill Peterson ou encore Mod Selector. Mais bientôt, Omar Suleiman reprendra la route pour une soirée à la machine du Moulin Rouge à Paris, ce vendredi 14 août. Alors, chers convives, n'hésitez plus. Entrez dans la danse, entrez dans la transe.
Omar Suleiman, Bademinami, qui Omar Suleiman jouera donc vendredi soir à la machine du Moulin Rouge.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été, Martin Kenéen.
Et voici que débute à présent la seconde partie de notre grande table d'été. Les ombres menaçantes et floues des conspirateurs de tout poil s'évanouissent tout à coup. Non pas, cependant, pour laisser place à quelques lueurs d'espoir, non, car nous voilà maintenant aux prises avec d'autres personnages de cauchemar, les méchants couchés sur le papier par les romanciers et les dramaturges, des vilains possédant visage, et dont notre invitée Isabelle Mimouni établit le CV et auquel elle donne la parole dans son nouvel essai « Malins en diable », une anthologie des méchants en littérature, publié chez Gallimard, et qui en 40 entrées, de Barbe Bleue à Voldemort, nous propose la plus abominable photo de classe qu'on puisse imaginer. Bonjour Isabelle Mimouni.
Bonjour.
Votre anthologie, disons-le d'emblée, n'a rien d'accessoire, car en littérature, les méchants sont utiles, voire nécessaires, sinon à la bonne marche du monde, du moins à celle de l'histoire.
Oui, alors effectivement, vous touchez immédiatement très juste en littérature, et non pas dans le monde réel. Les méchants sont extrêmement utiles. Ils sont utiles d'abord parce qu'ils sont nécessaires à l'intrigue, puisque c'est eux qui vont faire obstacle au héros ou au personnage principal, souvent. Et puis, c'est eux qui, par contraste, vont donner toute son aura à ce personnage qui va s'affronter à un méchant plus ou moins puissant.
Et ils sont aussi utiles, Isabelle Mimouni, dans la mesure où peut-être ils éclairent sous un jour nouveau l'absurdité de l'humaine condition, même de sa dignité, comme disait Pic de la Mirandole, c'est-à-dire le libre arbitre.
Effectivement, parce que je pense qu'on est tous confrontés à la question de la méchanceté. Les héros sont tous, eux aussi, confrontés à la question de la méchanceté. Et face à cette méchanceté, ils vont devoir exercer leur libre arbitre ou justement ne pas l'exercer sous l'influence de tel ou tel personnage. C'est la question que pose souvent la littérature quand un personnage a un ascendant très fort sur un autre. Je peux donner par exemple le cas de Dorian Gray qui est influencé par les idées pernicieuses et pourtant si stimulante, si inquiétante de Sir Henry. Personnage qui, lui, reste dans l'ombre, qui se contente de discourir, lui-même reproduisant les paroles de Huysmans en littérature française. Et finalement, celui qui agit sous l'effet de ces paroles pernicieuses n'exerce pas son libre arbitre. Donc effectivement, c'est bien le moment pour le lecteur de réfléchir sur son propre libre arbitre, hein, le libre arbitre du personnage, renvoyant le lecteur à ce que lui-même aurait éventuellement construit comme parcours.
Dorian Gray, le héros d'Oscar Wilde, Isabelle Mimouni, je le demandais tout à l'heure en première partie pour planter le décor à nos invités de définir les termes. Je crois qu'avec la professeure de littérature que vous êtes, c'est aussi une chose qu'il faut faire d'emblée. Quand on parle de méchanceté, de quoi parle-t-on? Que signifie ce terme?
Alors, ce qui est très intéressant en français et ce qui arrive finalement assez rarement, c'est la différence de sens qu'il peut y avoir pour un adjectif quand il est, alors parlons savamment, antéposé ou postposé. Alors, c'est-à-dire tout simplement quand il est devant le nom auquel il se rapporte ou derrière. Alors, quand l'adjectif méchant est épithète derrière le nom auquel il se rapporte, il renvoie aux notions qu'on connaît de vilenie, comme vous venez de l'évoquer. Quand il est devant, et c'est ça qui me semble aussi intéressant, si je dis par exemple une méchante robe, ça n'a aucun rapport avec la méchanceté, c'est une question de peu de valeur, d'absence de valeur. Et, au fond, cette antéposition ou cette postposition nous amène à réfléchir sur la valeur de la méchanceté. Il va y avoir certains méchants qui vont être grandis par la littérature, grandis au point même de devenir des êtres cultes, des personnages cultes, et inversement, des personnages dont la valeur est interrogée par la littérature, qui accentue leur dimension vile. C'est-à-dire que du vilain, on va avoir, là, nouveau par un effet de jeu de mots de la langue française, une dimension vile et de peu de valeur. C'est une question qu'on peut réellement poser, par exemple, sur le personnage de Don Juan.
Voilà, c'est ce que vous faites dans votre essai, hein, c'est Don Juan qui a le droit à être un homme méchant ou un méchant homme.
Oui, parce qu'on a quand même cette célèbre qualification, hein, grand seigneur méchant homme, qui fait quasiment antithèse, hein, grand seigneur et pourtant méchant homme. Alors donc moi, c'est un oxymore qui m'a interpellée. Je me suis vraiment interrogée sur la raison pour laquelle on pouvait considérer que Don Juan pouvait être vil, dans la mesure où les romantiques en ont fait le dandy par excellence, le Don Juan aux enfers de Baudelaire est un personnage remarquable qui s'oppose à Dieu et à toutes les formes de destin. Comment pouvait-il se faire que Molière choisisse de parler, d'évoquer, enfin d'antéposer cet adjectif? Je crois que c'est la scène du pauvre dans Don Juan qui nous permet de réfléchir sur cet aspect, parce que au moment de la scène du pauvre, d'abord on s'étonne de la manière dont Don Juan force le pauvre à blasphémer gratuitement, et puis surtout on voit ce pauvre qui résiste à Don Juan et qui finalement s'avère plus grand que Don Juan. Et donc qui nous amène à nous réinterroger sur cette valeur du personnage.
Dans la littérature, Isabelle Mimouni, il n'est pas besoin d'être Don Juan pour séduire. Le méchant est séduisant et ça tient en particulier, dites-vous, au fait qu'il est hypocrite, il avance masqué. Est-ce que la devise de Descartes, hein, larvatus pro deo, j'avance masqué, pourrait être celle de tous les méchants?
Non. Certainement pas. Il y a des méchants qui annoncent la couleur. Alors, c'est très intéressant, hein, cette question d'avancer masquée ou pas masquée. Alors, si je prends le personnage de Tartuffe, par exemple, qui est évidemment le personnage de l'hypocrite qui avance a priori masqué. Il est grimé, il porte ce costume de dévot. Mais Molière fait en sorte, d'ailleurs sous la poussée de la censure, hein, il fait en sorte qu'on comprenne que le personnage est un personnage de méchant, que ce masque n'est finalement qu'une grimace évidente à interpréter. Et à partir du moment, alors ce qui va faire rire le spectateur, hein, à ce moment-là le méchant devient comique et non plus perturbant, abominable, terrorisant. Donc il finit par devenir drôle parce qu'il est caricaturé. Et inversement, ce qui est très intéressant dans Tartuffe, si on ne l'interprète pas comme méchant, si on n'a pas la lucidité de regarder ses traits, les traits qu'il a montrés en fait, c'est qu'on veut être aveugle. Et il y a beaucoup enfin, la littérature nous invite à réfléchir sur notre cécité, sur cette volontaire servitude que l'on pratique parfois par rapport à la méchanceté.
Bad Boy Boogie du groupe AC/DC autour de la grande table d'été, puisque nous parlons des méchants avec vous, Isabelle Mimouni, à l'occasion donc de la publication de votre essai Malins en diable, les méchants en littérature. Parlons de style et de l'effet des méchants sur celui-ci. Y a-t-il chez certains auteurs une méchanceté de l'écriture? Autrement dit, est-ce que le style apparaît parfois comme innervé de méchanceté? La plume change-t-elle de rythme, de couleur quand le méchant entre en scène?
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part le fait que l'auteur va prêter sa plume à un méchant. Et par exemple, si on s'intéresse au personnage de Milady, à partir du Milady dans Les Trois Mousquetaires.
Chez Alexandre Dumas, donc.
Dans ce cas-là, on va percevoir comment finalement la séductrice, la tentatrice, fonctionne de manière pernicieuse, sournoise. On ne peut qu'évoquer le serpent en l'occurrence. Et la langue va certainement, la langue que l'auteur prête à son personnage.
Et on sait que le dialogue chez Alexandre Dumas, c'est une des grandes parties du plaisir de la lecture.
Donc dans ce cas-là, effectivement, certainement, la langue va se charger de toute cette dimension pernicieuse. Mais je pense que votre question était double. Il y avait d'une part le personnage et d'autre part l'écrivain. Je crois qu'il y a un grand, grand plaisir d'une écriture qui... Dubélé employait un terme que j'aime énormément, et poinçonne. J'aime énormément ce terme parce que dans le poinçon, on voit bien comment l'écriture peut devenir satirique, violente. Et peut-être qu'il y a un plaisir de l'écrivain à détruire par la plume satirique.
Détruire, dit-elle.
Détruire. Je me pose la question, aussi bien son personnage de méchant que parfois son personnage de gentil, qui peut-être lui semble un peu niais.
Alors l'auteur est masqué, le méchant avance parfois masqué, Isabelle Mimouni, mais si on reste sur cette idée du masque, il faut voir ses lecteurs au visage dissimulé derrière un livre ouvert, que ce soit sur la plage, dans les transports en commun. Le méchant n'est-il pas aussi le masque, peut-être même le miroir du lecteur? Est-ce qu'il n'y a pas du Hannibal Lecter dans tout lecteur?
Il y a du Hannibal Lecter dans tout lecteur, pour reprendre un jeu de mots plaisant. Je pense que tout lecteur est amené obligatoirement... Alors, certains ouvrages vont faciliter cette interrogation. Quand on prend Vipère au poing d'Hervé Bazin, ce texte qui est écrit à la première personne, qui choisit d'écrire la haine du fils contre la mère, bon, qui est pas piqué des hannetons en l'occurrence, le personnage de Folcoche que tout le monde connaît grâce en particulier à l'interprétation d'Alice Sapriche, certainement le lecteur va être amené à s'identifier au personnage qui est prêt à tuer sa mère, hein, qui d'ailleurs y a deux tentatives d'assassinat, ça ne réussit pas, mais enfin il y a quand même deux tentatives d'assassinat. Et ce qui est intéressant, c'est que on est très content. Et qu'on avait envie de la tuer, effectivement. Donc cette satisfaction de meurtre qu'on ressent dans la lecture, c'est quelque chose qui obligatoirement nous interroge sur nos désirs, nos pulsions. Pulsions qu'on peut débrider quand on est en littérature. Le lecteur peut se permettre de perdre le contrôle de soi, d'avoir envie de faire mal, de tuer, et qu'il peut rebrider, heureusement, quand il est dans le monde réel. Je crois que c'est ça.
On revient à Aristote, alors à la poétique, à la catharsis.
On revient à la catharsis, on purge les passions. On a besoin de purger nos passions. Je crois qu'on est des êtres d'émotion, de sensibilité. Le contrôle de soi, l'insensibilité, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir. Ça fait partie justement de ce qui nous rend méchants et inhumains. Nos désirs doivent à un moment s'expurger, et c'est bien là le rôle de la catharsis.
Alors c'est souvent non dit, dissimulé entre les lignes, mais c'est parfois aussi affirmé. Je pense par exemple à l'adresse au lecteur de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal.
Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, bien sûr. Cette adresse au lecteur, cette manière de lui dire qu'il n'est que son double et qu'il vit ce même goût des Fleurs du Mal, Il y a aucun doute. Hein. Je ne crois pas que le lecteur puisse prendre a priori des distances. C'est pas un lecteur, sinon.
la séduction de votre essai, Isabelle Mimouni, mais aussi des méchants, tient encore à l'infinie diversité de ces misérables. Il y a des méchants de tout milieu, de toute nature, auteurs de toutes sortes d'abominations, qui emploient petits et grands moyens.
Oui, alors c'est ce que j'ai essayé de faire. Hein, dans le choix des personnages était quelque chose de difficile. Il y avait quand même un impératif, c'était d'essayer justement d'avoir une sorte de palette de la méchanceté, de rendre compte des nuances de la méchanceté, de la toute petite mesquinerie finalement qui se fait discrètement au quotidien, jusqu'à la méchanceté grandiose et spectaculaire qui est représentée alors, pour moi par un personnage qui est absolument passionnant, c'est le personnage de Médée. Alors, on connaît l'inhumaine Médée, hein, qui tue ses enfants. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir le trajet de Corneille sur le personnage de Médée. Médée est la première tragédie de Corneille. Donc, c'est quelque chose de passionnant de voir un écrivain basculer d'un genre à un autre genre. Donc, c'est sa première tragédie. Et 30 ans après, il réécrit Médée. Alors dans la première Médée, il prenait Médée, la fin de Médée, le meurtre des enfants. Dans la seconde, c'est Médée épisode 1, si je puis me permettre. Dans la seconde Médée, il revient au début de Médée. Cette fois-ci, il choisit de faire une pièce à machine. Il veut que Médée soit le personnage le plus spectaculaire qui soit. Et ce qu'il donne à voir, c'est le mal sur son char de triomphe. Ça, c'est rare. Alors, peu de méchants triomphants dans la littérature, parce que ça a quelque chose de tellement parfois insupportable, le triomphe du mal, qu'évidemment on comprend qu'on puisse reculer.
Il y a donc, on l'entend, hein, toute une diversité de personnages, toute une galerie de méchants dans votre essai, Isabelle Mimouni. Ça va, je le disais, dans l'ordre alphabétique de Barbe Bleue à Voldemort, mais historiquement, pourrait-on dire, on va de Cain à Patrick Bateman, hein, le tueur en série d'American Psycho de Bret Easton Ellis. À quelle évolution êtes-vous sensible chez ces méchants?
Alors, pour ce qui est de Cain, il était évident qu'on était obligé, enfin, quand on a réfléchi avec mon éditrice Véronique Jacob, quand on a réfléchi sur les méchants qu'on avait...
Ce petit bréviaire de la méchanceté.
Cain était un personnage évident. Cain, c'est le premier meurtrier. On n'avait pas le choix. C'est le premier meurtre. Là-dessus, je dirais que ça nous ramène où tu ne tueras point, au premier interdit qui est transgressé. Donc, la transgression, je ne veux pas dire que ça... Nous continuons de réfléchir sur la transgression, hein. Même si nous avons une société qui s'est bien sûr libéralisée dans ses mœurs, la transgression continue d'exister. Je trouve que ce qui est très intéressant, si vous allez jusqu'au personnage de Bateman, c'est qu'il nous interroge sur un aujourd'hui qui est frappé par un monde de simulacres et de simulations. Puisque finalement, quand on lit American Psycho, on peut véritablement s'interroger sur la réalité de tous ces meurtres absolument abominables. Hein. Moi, j'ai eu du mal à lire jusqu'au bout, tellement c'est insupportable.
Mais c'est vrai que d'un autre côté, vous parlez de simulacres, on pense à Baudrillard, on est dans la société de consommation, et on ne sait pas s'il parle d'une paire de chaussures ou d'un être humain.
Exactement. On est dans une société de consommation, une société où les êtres deviennent des accessoires, et non plus des individus, des personnes. Et dans cette société où les gens sont des accessoires du luxe, du bling-bling, on a obligatoirement là quelque chose qui nous renvoie à un contemporain. Je ne connais pas assez la société antique, mais je pense que c'est quand même une différence entre le passé et le présent.
Une forme de déréalisation, on parlait des vidéos djihadistes tout à l'heure dans la première partie. Il y a aussi ce rapport aussi à...
Une déréalisation.
Au virtuel.
Au virtuel, oui. Giving you on count three.
Michael Jackson, I'm Bad. Un morceau de 1987, hein, on est vraiment dans les années Bateman que décrit Bret Easton Ellis, les années Reagan, les années fric, ces fantastiques années fric. Il y a de nombreux hommes dans vos méchants, ces 40 entrées, ces 42 personnages, parce qu'il y a notamment les jumeaux d'Agatha Christophe qui n'ont droit qu'à un chapitre pour eux deux, ces jumeaux du Grand Cahier. Mais parmi ces 42 méchants, Isabelle Mimouni, il y a seulement 11 femmes. Comment expliquez-vous ce déséquilibre ?
Je suis contre la parité, en fait. Voilà, c'est impossible. Les femmes ne peuvent pas être aussi méchantes que les hommes. En littérature, en tout cas, c'est sûr que... Pourtant, j'ai
voulu...
Vous
avez même pris la petite Sophie, la pauvre, la malheureuse Sophie.
Ah oui,
Sophie.
Il a fallu aller chercher même les enfants, qu'est-ce que vous voulez. Et pourtant, j'ai évacué une enfant-fille qui était pas mal dans le vent, mais bon...
On parle de Sophie, de la comtesse de Ségur, bien sûr.
De la comtesse de Ségur. Mais il y a peut-être moins de femmes, mais elles sont très très bien. En particulier, je vous recommande Madame de Merteuil, qui est peut-être celle qui a...
Vous n'aimez guère Madame de Saint-Ange,
non,
chez Sade, dans La philosophie dans le boudoir.
Je préfère Madame de Merteuil, beaucoup. C'est une femme de tête. C'est une femme qui entame la guerre des sexes, réellement, et qui la gagne quasiment. Même si je connais la fin de Madame de Merteuil, je pense que la démonstration qui est faite par Madame de Merteuil de la maîtrise qu'elle a de soi et du monde, le fait qu'elle devient un double, justement, de Laclos, dans la mesure où elle le dit clairement à Valmont, j'écrirai vos mémoires, je tiendrai la plume et j'écrirai vos mémoires, cette substitution du personnage féminin à l'auteur, bon, il y a moins de femmes, mais elles sont quand même de poids.
Mais donc il y a une différence entre une femme de plume, une femme de tête, comme Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, et puis j'évoquais Madame de Saint-Ange, plutôt femme de corps, chez Sade. Je ne sais pas s'il y a un éthos, on cherche toujours un éthos féminin partout. Isabelle Mimouni, les femmes, les méchantes femmes ou les femmes méchantes, se différencient-elles dans leur méchanceté des hommes ?
On ne peut pas ne pas évoquer le personnage de Lilith, le personnage de la séductrice. Ça traverse toute la littérature. La femme est une séductrice, une tentatrice.
Il y a Salomé, notamment
c'est ce que
dans
j'allais
l'anthologie.
Dire. J'allais évidemment parler de Salomé. On pense à cette danse de Salomé qui fascine l'homme. Salomé qui est la puissance castratrice. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'éthos féminin est certainement... Alors peut-être parce que... Plus souvent, la littérature est d'abord écrite par des hommes. L'éthos féminin, c'est un éthos de la séduction qu'on ne peut pas, contre laquelle on ne peut rien et qui est éminemment dangereuse.
Alors, on parle d'hommes et de femmes. Il y a un autre couple qui surgit, qui appaire dans votre anthologie, Isabelle Mimouni. C'est le couple du méchant et de sa victime, pas de méchant sans victime. Le méchant a paradoxalement besoin de l'autre, il fait couple. Donc, avec sa victime, quels sont peut-être les pères paradigmatiques de ce couple méchant-victime qui vous retiennent le plus ?
Peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'est le personnage de Vautrin avec sa victime ratée et sa victime réussie. On a dans la comédie humaine deux...
Chez Balzac, hein,
chez Balzac,
auteur
pardon.
Cher à votre cœur.
On a deux cas de bourreaux et de victimes. Vautrin s'attaque d'abord à Eugène de Rastignac. Et Eugène de Rastignac, en dépit d'un début de tentation, hein, résiste. Eugène résiste, il a la puissance, alors Balzac vous dirait qu'il est brun, il a la puissance qui lui permet de résister à la force herculéenne qu'est Vautrin. De l'autre côté, on va avoir un Lucien de Rubempré qui, à la fin d'Illusion perdue, est prêt au suicide et qui se laisse séduire par le démon tentateur et qui accepte d'être finalement la poupée, la chose de Vautrin. Et quand on voit le couple évoluer ensuite dans Splendeur et misère des courtisanes, c'est un des plus beaux couples qui soit parce que Lucien, c'est d'une part l'enfant, d'une certaine manière, de Vautrin. C'est bien sûr, dans une relation homosexuelle, son amant. Mais c'est aussi, surtout, une relation de Pygmalion qui appaire dans ce couple. Et je crois que c'est pour ça que les personnages, ces personnages de rebelles et de méchants qui ont la capacité de forger les âmes qu'ils ont entre les mains sont absolument passionnants. C'est le professeur qui doit être en train de parler, je pense.
Mais précisément, puisque vous êtes professeur en classe de première et de lettres supérieures, donc d'Hippocagne et de Cagne à Chaptal et à Jules Ferry à Paris, est-ce qu'il y a des méchants au programme des concours de l'école normale supérieure ?
Non. Des méchants au programme. Non, c'est pas comme ça que généralement vous... les choses se font.
Donc c'était pas un travail préparatoire que vous avez mené pour revenir armé pour vos élèves.
Ah non, non, non. Enfin, je pense que ça m'arme. Il y a un jeu de va-et-vient permanent entre la recherche et le travail qu'on fait auprès des élèves, mais en l'occurrence pas en raison de programme.
Vous évoquiez la relation amoureuse entre Lucien de Rubempré et Vautrin chez Balzac. Ce qui semble intéressant, c'est qu'ils soient hommes ou femmes, les méchants, peut-être à la différence des anges, semblent avoir un sexe.
Il y a peut-être quand même des cas où on peut... Alors d'abord, on peut s'interroger. Hein, n'oubliez pas le personnage de Vautrin dans La Passion Vauquaire, des deux sexes et autres. Et je pense que Vautrin est plutôt du côté des autres. Et puis, si je prends le cas des jumeaux auxquels vous faisiez allusion dans Le Grand Cahier, ce sont deux garçons.
Le Grand Cahier d'Agota Christophe, donc.
Ce sont deux garçons, mais rien ne les caractérise a priori, comme, spécifiquement comme garçons.
Mais la question de leur sexualité est présente, par exemple, dans cet ouvrage. C'est un des attributs d'avoir une sexualité, c'est un des attributs du personnage du méchant en littérature.
Là, vous me laissez perplexe. Je crois pas que ça soit ce qui fait absolument sa spécificité.
On évoquait Vautrin qui rebondit, si je puis dire, toujours face à l'adversité. Quand on le croit coincé, quand on le croit fini, il trouve toujours une issue. Est-ce qu'il y a une rédemption possible, ou en tout cas offerte aux méchants dans la littérature, Isabelle Mimouni?
Alors là, vous faites, on est obligé d'évoquer le pendant, hein, Vautrin. Quand on pense Splendeur et misère, on pense Les Misérables de Victor Hugo. Et on a le couple entre Jean Valjean et Javert, qui est à ce titre extrêmement intéressant. Jean Valjean, c'est le forçat évadé qui récidive et qui finalement aura la rédemption en Monsieur Madeleine. Javert, c'est celui qui représente le droit dans sa rectitude exagérée et qui, lui, n'a pas de rédemption. Donc je pense qu'effectivement, la littérature permet la rédemption, heureusement, peut-être plus que la vie.
Mais la happy end est rare chez les méchants?
Oui, très rare. On finit quand même beaucoup aux enfers.
Merci beaucoup Isabelle Mimouni. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Méchants en Diable, une anthologie des méchants en littérature qui vient de paraître chez Gallimard.
Je vous remercie.
La grande table d'été était préparée par Sébastien Thème, Corinne Amar, Célia Semama et Hélène Davoine. Au micro, Martin Kenehen, à la réalisation, Michael Angevinti et à la prise de son aujourd'hui, Clément Daté.
Et la chronique était signée Hélène Davoine. Écoute, podcast, commentaires sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux qui ne sont pas le seul apanage de la complosphère. Sur Facebook et Twitter, vous pouvez retrouver la grande table d'été.
Demain, nous serons en direct du festival Jazz in Marciac avec la compagnie Loubat, l'équipe de l'arrière-cuisine, Xavier Poulain, restaurateur et chef, et Touvetori, en cuisine, en compagnie de l'universitaire et spécialiste de gastronomie, Corinne Marage.
À demain donc pour une nouvelle grande table d'été.